Well, it seems to me that everybody speaks about Europe all the time today.
L'Europe de peuple.
L'Europe, c'est à la fois trop petit et trop grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer ça?
I fucking love Europe.
Full Continental, épisode 37. En Suisse et en Islande, révolutionner la démocratie.
Full Continental. Caroline Gillet, sur France Inter.
J'ai reçu ma convocation à l'ambassade de Belgique pour les élections fédérales et européennes de fin mai. La lettre envoyée par mail est d'abord arrivée dans mes spams. Je me suis demandé si ça racontait quelque chose d'intéressant sur la démocratie d'aujourd'hui. J'ai cliqué, j'ai recliqué, et j'ai appris que j'étais attendue un jeudi après-midi, entre 13h et 21h, qu'il fallait que je vienne avec une pièce d'identité, mais de préférence sans ma voiture, parce qu'il n'y avait pas de parking, et de préférence sans mon animal de compagnie, et là, c'était pas précisé pourquoi. Le même jour, j'ai reçu ce clip, produit par le Parlement européen. On voit des vidéos d'enfants, de nouveau-nés, des femmes enceintes, en plein labeur, des maris inquiets, puis très heureux. Visiblement, comme beaucoup de grandes marques, même parfois les plus contestées, le Parlement européen choisit l'émotion pour promouvoir son projet et pour nous inciter à aller voter. Je vous traduis.
Today, I'm being born.
Aujourd'hui, je suis née, comme des milliers d'enfants, dans l'Europe. Dans quel monde allons-nous vivre? Joie, amour et peur. Il y a surtout de l'anxiété. Peut-être parce que le monde autour de nous semble incertain. Parce que le changement arrive. Les défis sont globaux, mais en Europe, ensemble, on peut montrer l'exemple. Réduire le changement climatique, combattre le terrorisme, on peut faire une différence. Promouvoir la paix, la démocratie, et chacun de nous peut laisser sa trace.
That's why we vote.
C'est pour ça qu'on vote. Choisissez l'Europe dans laquelle vous voulez que je vive. Je parlais de cette vidéo avec Maxime Caligaro, qui connaît bien les institutions européennes, et il me disait que le fait même que ce clip existe montre qu'il y a un problème. Il a demandé autour de lui, c'est du jamais vu. Aucun parlement au monde ne se retrouve à devoir faire de la promotion pour ses propres élections. Mais il me dit aussi que ce clip montre une remise en question. Pour la première fois, les institutions européennes, auxquelles on a souvent reproché d'être technocratiques et pas très sexy, font entrer de l'émotion dans une campagne. Et ça marche. Mieux en tout cas. Le communiqué dit que la vidéo aurait été vue par un Européen sur cinq en moins de deux semaines. La prochaine fois, peut-être qu'il y aura même des chatons. Alors pourquoi on en est là? On parle beaucoup d'impasse démocratique. Il y a un sondage IFOP qui est sorti cette semaine et qui dit qu'en France, seuls 23% des 18-25 ans pensent aller voter le 26 mai prochain. C'est la plus forte prévision d'abstention depuis que l'Observatoire du comportement électoral des jeunes existe. Ça me rappelle aussi un article du Monde. C'était en juillet 2018. L'article disait que 46% des jeunes de 18-35 ans estiment que d'autres systèmes politiques sont tout aussi bons que la démocratie. Face à ces chiffres, face au mouvement des Gilets jaunes en France, on entend partout qu'il faudrait une démocratie plus participative. Et alors que vous aussi, vous allez être convoqué en Belgique ou invité à voter en France, on s'est dit que dans cet épisode, on pourrait peut-être parler d'idées nouvelles ou d'idées d'ailleurs. On va entendre un vingtenaire, trois trentenaires qui se mobilisent sur ces questions. On va entendre ce qui s'est passé quand l'Islande a décidé de faire appel à ses citoyens pour rédiger une nouvelle constitution. Et d'abord, on s'est dit que ce serait intéressant d'appeler la Suisse. Parce qu'on parle beaucoup de leur modèle. Chez eux, 4 dimanches par an sont réservés aux votations.
Alors, je suis dans le quartier de Plainpalais à Genève. Mmh. Il y a un grand marché ici. Mmh. Et plein de bonnes choses.
Voilà Till Bukart. Il a 35 ans. Il termine une thèse à l'université de Genève sur les politiques linguistiques en Suisse. Lui-même est fils d'un père germanophone et d'une mère suissesse italophone. J'avais parlé à plusieurs Suisses avant lui, et comme tous, qu'ils soient au nord ou au sud, me disaient qu'ils voyaient des lacs par leurs fenêtres. Je lui ai demandé si lui aussi.
Alors, il y a le lac, et surtout il y a le Rhône ici à Genève. On peut rentrer dans le Rhône et se faire emporter par le courant, et sortir quelques centaines de mètres après.
Et là, on est en pleine ville quand on fait ça, ou on est au milieu de la nature?
Alors, on est en pleine ville. C'est une pratique très suisse.
Ça a l'air tout à fait génial et complètement flippant. Et je trouvais que c'était une entrée en matière ludique avant d'aborder notre sujet central du jour, et parfois un peu dense. On va essayer de pas se noyer, c'est parti. Qu'est-ce que le système de référendum à la Suisse?
Alors, en Suisse, le peuple, il est un organe politique, et il est l'organe constituant. Ça veut dire que toute modification de la Constitution doit passer par le peuple.
Alors en Suisse, il y a 3 types de scrutins. D'abord, l'initiative populaire. Un citoyen peut proposer une modification de la constitution suisse et la soumettre au vote. Pour cela, il faut qu'il récolte 100 000 signatures. Ensuite, il y a le référendum facultatif. Si des citoyens récoltent au moins 50 000 signatures, ils peuvent s'opposer à une loi ou à un traité international décrété par le Parlement et le faire voter. Enfin, il y a le référendum obligatoire. Il est obligatoire parce que le peuple est appelé à voter d'office dès que le Parlement décide de modifier la Constitution. Je demande à Thiel s'il connaît les origines de ce système si particulier à la Suisse.
La Suisse est un pays qui, dès le Moyen-Âge, est fondé sur un ordre républicain. Les cantons qui composent la Suisse ont toujours été des républiques prémodernes où les personnes qui avaient le droit de citer dans cette république ont toujours eu des droits politiques étendus. Et je crois qu'à la base, quand le système de démocratie directe en Suisse a été introduit en 1874, c'était qu'il y avait eu un seul parti, le parti radical, qui était resté au pouvoir pendant près de 25 ans. Et l'opposition considérait qu'il fallait que les décisions soient validées par le peuple pour éviter une trop forte concentration de pouvoir.
Le sujet des référendums, la santé, les impôts, l'énergie, la sécurité routière, des sujets très proches, on soumet des questions auxquelles les Suisses doivent répondre par oui ou par non. Apparemment, le plus souvent, c'est non. Et le taux de participation est en moyenne de 40%.
Ce qu'on remarque, même quand on est très petit, c'est qu'autour de ces votations, il y a tout soudainement les murs des villes qui commencent à être tapissés de oui et de non. Je crois que même avant d'avoir une vraie conscience politique, on le remarque à cause de ça. Après, dans mon cas, comme j'ai souvent passé de la Suisse italienne à la Suisse alémanique, ce qui est intéressant, c'est que je voyais les mêmes affiches, mais écrites dans des langues différentes. Ça, c'est probablement le premier contact avec la démocratie directe. Après, évidemment, quand il y a des votations importantes, moi, j'ai vécu la votation sur l'espace économique européen, celle qui, pour l'instant, était celle avec le taux de participation le plus élevé et qui a vraiment marqué la Suisse.
En 1992, les Suisses, à 50,3%, ont rejeté l'adhésion à l'espace économique européen.
Là, je me souviens aussi, c'était le jour de la Saint-Nicolas. Il y avait le Saint-Nicolas qui était venu, je ne sais pas si c'était ma grand-mère ou quelqu'un d'autre de la famille. Mmh. Et en même temps, il y avait la radio qui tournait derrière parce qu'il y avait toute la famille qui était au fond plus intéressée au résultat du référendum. C'était aussi quelque chose qui avait beaucoup mobilisé la population. Moi, à la base, je venais d'un milieu, je dirais plutôt urbain, où la plupart des gens votaient pour le oui. Ce jour-là, par hasard, j'étais dans une commune très rurale et je me souviens qu'il y avait toutes les voitures dans cette commune-là qui avaient des autocollants pour le non. Et là, je me rends compte que quand même, bon, les gens là-bas pensent différemment que chez moi en ville. Je dirais qu'indépendamment des résultats de tel ou tel scrutin, je crois qu'une forte majorité de la population suisse est d'accord pour dire que ce système marche dans son ensemble, que ça permet aux citoyennes et citoyens de s'approprier des décisions politiques.
La critique qu'on émet souvent à l'égard des référendums, c'est que les questions sont peut-être simplistes par rapport à la complexité de certains dossiers. C'est oui ou non et rien d'autre. Et que le peuple, la population, n'a pas toujours le temps de rentrer dans des dossiers complexes pour essayer de comprendre les enjeux.
Bon, si je parle de l'expérience suisse, il faut regarder le nombre des lois qui sont soumises au peuple est très très faible par rapport à l'ensemble des lois qui sont adoptées par le Parlement. Donc, quand il y a une loi qui est soumise au peuple, c'est généralement parce qu'il y a eu 50 000 personnes qui ont demandé le référendum. Et donc, il y a une volonté d'une partie de la population de s'exprimer là-dessus. Il y a sans doute une question de confiance qui s'installe à ce moment-là. C'est vrai que pour une citoyenne ou pour un citoyen, ce n'est pas toujours évident de comprendre un texte législatif de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de pages. Mais en même temps, il y a des mots d'ordre de la part des partis, il y a des explications de la part des institutions. Donc, je pense que c'est un problème qu'on tend à surestimer généralement. Je pense que ce qui fait vraiment le succès du système suisse, c'est qu'on vote à des échéances régulières, qu'on a pris l'habitude de voter et qu'on sait que de toute façon, 3 mois après, il y aura une autre votation, que ce n'est pas en votant d'une certaine manière qu'on va changer les choses au-delà vraiment de l'objet sur lequel on va s'exprimer.
Quand on lit des papiers sur le sujet, on trouve pas mal de critiques de ce modèle suisse. D'abord sa lenteur. Par exemple, le congé maternité a été adopté en 2004 après des décennies d'attente et 3 refus. La Suisse est en campagne permanente. C'est le sport national, disait un député à l'Express en avril 2017. Et la suite de l'article dit ceci. Depuis quelques années, ce système exemplaire a produit des résultats de plus en plus controversés. Le droit d'initiative, une idée noble à l'origine, est devenu un outil de marketing politique et de lobby qui ont les moyens matériels humains et surtout financiers pour récolter les signatures nécessaires. Une initiative populaire coûte entre 2 et 5 francs suisses par signature. Or l'UDC, un parti populiste dont le chef de file est l'industriel richissime Christophe Blocher, s'est engouffré dans la brèche en multipliant les initiatives à l'approche des élections sur ses thèmes de campagne xénophobes et anti-européens. Et c'est en réaction à ces campagnes xénophobes que s'est créé en 2014 le groupe Opération Libéraux, un groupe d'activistes qui, selon le quotidien britannique The Guardian, a peut-être trouvé le moyen de freiner ou même de faire reculer les populistes d'extrême droite. Till fait partie de ce groupe, mais aussi Janos, qu'on va entendre tout à l'heure, mais d'abord, je voulais vous dire quelques mots de plus sur ce mouvement. Leur premier combat, c'était contre une initiative populaire qui avait été déposée par l'association Ecopop. Cette initiative prévoyait de limiter la population en Suisse pour préserver les ressources naturelles du pays, c'est-à-dire de restreindre la natalité et l'immigration. Pour Opération Libéraux, l'initiative était le fruit de conceptions tordues et critiquables de l'environnement et de l'écologie. Alors, en riposte et pour mobiliser les jeunes Suisses, ils avaient distribué des centaines de préservatifs aux emballages rose fuchsia sur lesquels il était écrit « Baiser contre Ecopop, prévenir le désastre ». Ça, c'est un des outils de campagne d'Opération Libéraux, un de ceux pour lesquels ils sont les plus connus. Souvent, ils diffusent des messages provocateurs, parfois drôles, sur des affiches roses pétantes, et ils ont une forte présence sur les réseaux sociaux. Une de leurs dernières campagnes, c'était pour le mariage pour tous, qui n'est toujours pas légal en Suisse.
Ah, wir warten, dass wir heiraten in der Schweiz können.
Dans cette vidéo, on voit des couples de même sexe, habillés intégralement en tenue de mariage, qui sont posés dans des transats pour la version estivale, ou tout en haut de pistes de ski pour la version hivernale. Et on voit alors des baigneurs ou des skieurs leur demander ce qu'ils font là. Ils répondent en les invitant à leur mariage, qui aura lieu, ils ne savent pas trop quand.
On peut pas se marier en Suisse, donc on attend. Non, on peut pas. On est fatigué d'attendre.
Ah voilà, ça y est, je te vois. Cool.
Ouais.
Tu as des cheveux roux bouclés.
Ouais.
Ouais.
Ouais, c'est toujours quelque chose, un défi très difficile le matin de essayer de discipliner mes cheveux.
Eh ben, il y a beaucoup de gens d'un certain âge qui seraient assez jaloux.
C'est mieux que rien, ouais.
Voilà Janos. Il a 26 ans.
C'est un peu trop proche à 30 ans.
Ouais, ça te fait peur, 30 ans ?
Il y a beaucoup de développement, disons, technique et politique, aussi sur le plan du climat, bien sûr, qui vont très vite et dans une direction où je ne vois pas comment le contrôler. Donc, c'est ça qui me fait un peu peur du futur. Mais je vois qu'il y a plein de gens qui le voient aussi, donc ça... Par contre, me rend optimiste déjà.
Il habite à Schwamendingen, en banlieue de Zurich. Il dit que là-bas, les loyers sont moins chers. Je me suis baladée un petit peu sur Google Maps. Ça a l'air très très vert. Quand je l'appelle, par contre, il est dans un coin très blanc. Il s'est enfermé dans le bureau de son employeur. Il est en stage en ce moment dans une boîte d'assurance. Je lui demande si c'est ça qu'il veut faire plus tard.
Bon, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la politique. Mais je ne suis pas sûr si je veux faire la politique traditionnelle. Je vois... la valeur du travail dans un parlement ou dans des institutions fixes, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important. Mais c'est aussi très, très lent. Et ce qui me plaît beaucoup dans le travail de campagne, c'est que ça va vite et il y a un truc un peu compétitif là-dedans. Donc ça j'aime très bien.
Janos dit « La Suisse, c'est un peu un laboratoire du populisme et du nationalisme. » Et justement, face à ça, les militants d'Opération Libéraux veulent recadrer le débat, arrêter de parler d'identité, d'où on vient, ou encore du passé. Dans leurs actions, ils se veulent offensifs pour, disent-ils, dissiper le brouillard et changer la focale.
Parce que, déjà depuis le début des années 90, il y a ce parti, l'UDC, avec ses initiatives, ses référendums et des campagnes constantes. Ils ont vraiment créé un nouveau narratif de la Suisse, ils ont créé une nouvelle histoire de la Suisse, disons, et ils avaient beaucoup de succès. Ils sont devenus le parti plus grand en Suisse.
Alors, Opération Libéraux est surtout et avant tout connue pour ses actions de février 2016. Le sujet proposé au référendum à l'époque était « Oui ou non au renvoi effectif des étrangers criminels ». La proposition visait à expulser du territoire les étrangers à l'origine d'infractions diverses.
Et tous les partis se disaient « C'est impossible de gagner contre l'UDC ».
Cela voulait dire que n'importe lequel des 2 millions de résidents non suisses, soit un quart de la population, qui aurait été, par exemple, attrapé 2 fois en 10 ans pour des excès de vitesse, aurait été automatiquement renvoyé dans son pays. Le projet avait finalement été massivement rejeté à 59%.
Ce que nous avons dit, c'est stop. Le sujet de cette initiative n'est pas les étrangers criminels, c'est notre état de droit qui est en péril. Parce que l'égalité devant les juges, devant le droit, est sous attaque. Et pour que les libertés de l'individu soient défendues. Vraiment, le cœur de tout ça, c'est changer le débat. Et c'est cela qui est le plus important.
Toi, qu'est-ce que tu ressens par rapport au système des référendums? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Il y a beaucoup de Français qui regardent vers la Suisse en se disant que c'est peut-être une solution pour amener plus de démocratie, plus de contact direct entre les électeurs et leurs élus.
C'est très utile d'avoir des référendums pour donner voix à des voix qui n'étaient pas écoutées, mais il y a un très grand potentiel d'être abusé. Parce que si on a le pouvoir, disons, monétaire, comme là, l'UDC par exemple, on peut vraiment régner sur le débat. On peut déterminer ce qui va être discuté. On avait une initiative sur si on pouvait bâtir des minarets ou pas. Et c'est un problème qui n'existe pas en Suisse. Il y a 4 minarets. Mais pour des mois, on n'a que discuté sur cela. Et donc, ce n'est pas un renforcement de la démocratie, là. Ça, c'est quelque chose où on ne facilite pas la démocratie. Et ça donne aussi un espoir un peu faux, je dirais. Parce qu'il y a toujours, dans un état de droit, dans une démocratie, il y a plusieurs pouvoirs qui se contrôlent.
Nous, ici, dans quelques temps, on va voter pour les élections européennes. Comment vous observez ça depuis la Suisse?
Bon, j'aimerais très, très bien voter dans les élections européennes, parce que c'est quand même le futur de notre continent, mais peut-être même le futur de la démocratie, mais bon, je ne peux pas.
Shane Vallée est économiste et lui dit qu'on a tendance à trop opposer démocratie participative et démocratie représentative, alors que pour lui, en fait, les deux sont complémentaires. Il dit « Il faut que la démocratie représentative soit sous contrôle de la démocratie participative » et que la démocratie participative occupe elle aussi un espace très défini pour que tout ne puisse pas être perpétuellement remis en question avec des référendums. On entendra ses propositions à lui, Shane Vallée, et à d'autres qui tentent de créer des ponts entre numérique et démocratie. On en parlera après ce disque qui a été choisi par Djoubaka. Djoubaka, vous savez quoi, ça rime avec Open Data. Voilà You Don't Know, Loyal Carner, Rebel Clef, Kiko Bonne.
It was started when you were year above. Before I had a favorite love. Before, back when I adored, but now I'm fearing love. Before, every other fell up, I was hearing love. Back when the day was fade to grey when you were clearing love. Cause now I only made love if I meant love. You wasn't in love, then what you think, love? Thinking I'ma hold you on the brink until we sing. Fade like a bubble, rather have another drink, love. I'll drink up and disappear. Cause honestly, you don't need me here. It's like you need it, can't defeat the fear. But now I see you can't believe, but I read it clear. Play me like an arse, I won't spend another evening here. Deep, the evening clears, drowning in stark. Just know you clouded my guts, going down on this lot. But now I sit in a hurry, worried not that I bust. Knowing you only went down to f- so what the fuck is up?
You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for.
Check, look. I know this shit sounds philosophical and borderline ironic, but this topic's very logical. Whether it's a blessing or a motherfucking obstacle that breaks apart and leaves the brokenhearted to the hospital. Powerful devotion for some. When I was young, lack of any kind of emotion had me hopeless and numb. Back when I was dumb, I was never running my gums, just always running from webs that I spun. Stress weighing a ton, weight was more than I was able to bear. Cause in my mind it's mad fruity to be labelled a pair, but blatantly scared, escaping any fragrant affair. That was my duty, always threw me into times of despair. Writing rhymes to try to describe the many times that I care. Cause honestly, to put it properly, I'm underprepared. And who am I to play the cast away? I've got a bigger part to play. So when they ask me, it ain't hard to say.
You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for.
So why are you crying? Stop the crying, I weren't crying on you. Stop the lagging, worry about them brothers lagging on you. The sliding on you, bump and grind every night upon you. Getting slag upon you, crag upon you, then get target of you. Balling cause I ain't on you, what the fuck you mean? Closest to trust I've ever seen. Well shit, well there I said it, now forget it like a dream. No regret, can't forget the shit you've seen. Should've kept it clean. Should've kept it clean.
Bienvenue à tous, vous écoutez Full Continental sur France Inter et sur la RTBF la première. Et dans cet épisode, on parle de démocratie et peut-être que parmi vous, certains ont vu passer ces tribunes parues dans Libération en février dernier. Une tribune écrite par Maroussia Kelp et Magali Van Coppenolle, membres l'une et l'autre du think tank belge Groupe du Vendredi. Les deux jeunes femmes voulaient dénoncer le fait que selon elles, je les cite, trop de défenseurs de l'Union européenne finissent par recourir à la même stratégie que celle qu'ils dénoncent, rassemblés face à un ennemi commun, dans leur cas, l'extrême droite. Elles aimeraient qu'au lieu de rappeler le passé glorieux, ce qui selon elles ne sert qu'à satisfaire les convaincus, tout en dissuadant encore plus ceux qui légitimement questionnent le statu quo, elles écrivent « Ne nous laissons pas paralyser par nos peurs. L'avenir n'est pas un référendum, il n'est pas bon ou mauvais. Le monde est de plus en plus complexe et la seule manière de progresser est d'apprivoiser cette complexité, d'être créatif, d'expérimenter. À travers l'Europe, des embryons de démocratie participative et délibérative émergent qui démontrent la volonté et la capacité actuelle des citoyens de s'exprimer sur les enjeux qui les concernent. Voter symboliquement tous les 4-5 ans ne suffit plus. Il faut transformer la relation entre État et citoyens, cesser de considérer la politique et l'Union européenne comme un processus top-down, mais comme un flux multidirectionnel qui permette et soutienne l'émergence d'une pluralité de voix et de solutions ancrées dans la réalité. » Et pour répondre à cette tribune, dans cette seconde partie d'émission, je voulais vous faire entendre Samuel Goeta. Lui a fait une thèse sur l'open data, un mouvement qui justement pourrait faire avancer la démocratie participative. Je lui demande d'abord ce que ça représente pour lui ce mot « démocratie ». Quels sont ses plus vieux souvenirs? Est-ce que c'est des souvenirs d'urnes, de bureaux de vote? Il dit non, il me parle plutôt d'un échange aux États-Unis qu'il a fait pendant ses études et pendant lequel il avait vécu dans une maison coopérative, une maison des années 30, un héritage de la Grande Dépression.
On avait une constitution qui expliquait le projet, notre projet commun, et qui se passait d'année en année, qu'on pouvait amender éventuellement si on voyait que notre projet évoluait. On avait quand même des représentants. Et après aussi, on partageait les charges communes de la maison, c'est-à-dire que moi, je cuisinais 3 heures par semaine pour 25 personnes. Donc, c'était une expérience de cuisine assez extraordinaire de se retrouver dans une cuisine industrielle sans formation préalable pour cuisiner pour 25 personnes. Et
avec des résultats.
Avec des résultats plutôt bons, parce qu'en tant que Français, on a un capital sympathie assez fort aux États-Unis. Donc, vous faites des crêpes ou un gratin dauphinois et vous êtes un peu le roi du pétrole. Et c'était extrêmement formateur parce qu'en fait, on vivait ensemble, on décidait ensemble. Et ça m'a beaucoup après sensibilisé à la question beaucoup plus politique qui est très forte en ce moment, qui est celle des communs et qui est un peu une alternative au marché ou à l'État. Les communs, l'idée, c'est d'avoir une ressource partagée. Donc, nous, dans notre cas, c'était cette maison qui est gouvernée selon des règles partagées. Donc, on a une gouvernance partagée.
Samuel dit par exemple, Wikipédia, c'est des communs, mais il y en a plein d'autres qui émergent. Et puis, Samuel dit que la démocratie, il continue de la vivre tous les jours, puisqu'en fondant DataActivist, une SCOP, une société coopérative et participative, il se retrouve avec des salariés qui ont tous vocation à devenir associés. Bon, mais revenons à sa spécialité, l'open data. C'est quoi ?
Ouais, c'est bien de commencer par ça. Alors, l'open data, c'est un mouvement qui a une dizaine d'années, qui défend l'idée que les données publiques, les données qui sont financées par nos impôts, qui sont produites par des acteurs investis d'une mission de service public.
C'est-à-dire, c'est les statistiques, c'est tout ce qu'on va...
Ouais, ça peut être les statistiques, mais ça va être aussi, en fait, toutes les données qui sont produites par l'administration dans le cadre de ses activités de gestion un peu ordinaires. Donc, ça va être l'emplacement des bancs, l'emplacement des arbres, ça va être des budgets, des dépenses, des subventions, des données météo, des données géographiques, des données environnementales, des données sur les transports publics.
Et donc l'idée, c'est qu'elles soient disponibles à plus de monde. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que moi, ça m'intéresserait de savoir où se trouvent les bancs dans la ville ?
La promesse de l'open data, c'est que les données vont être librement réutilisables, mais surtout, on va avoir accès au même niveau d'information que l'administration. Ça, c'est un peu l'idéal. L'idéal théorique, c'est pas toujours le cas en pratique, mais il y a une idée que on doit disposer des données dans leur plus grande finesse. Dans notre jargon, on appelle ça la granularité. Pensez au grain quand vous zoomez sur une photo. Et moi, ça m'est arrivé de manière très concrète. Quand je vis à Paris, j'ai eu un accident de la route, un accident à vélo, pas très grave du tout, mais qui m'a un peu choqué sur une piste cyclable. C'est une voiture qui rentrait dans un parking, qui a pas regardé sur la piste cyclable et qui m'a foncé dedans. Et j'ai râlé sur Twitter, je discutais avec l'adjoint du 13e au transport, et quand j'ai eu mon rendez-vous, il m'a montré des cartes. Et moi aussi j'avais des cartes à montrer, j'avais une source d'objectivité qui était en fait officielle, des données qui venaient du ministère de l'Intérieur, qui étaient collectées par les services de secours, et
montrait
qu'il y a eu des accidents.
Lui
montrait les aménagements cyclables en me disant qu'il y avait plein de choses qui étaient en cours. Moi, je lui montrais que déjà, le problème que j'évoquais et ce qui m'est arrivé à pas mal de monde, du coup, j'avais des données à lui montrer pour dire que j'étais pas le premier, qu'il y a eu des cas un petit peu plus graves à cet endroit-là.
Juste pour être très clair, l'open data, ça concerne les données publiques et non pas les données personnelles. C'est deux choses très différentes.
Avoir des données à disposition, c'est quand même un gros avantage et ça permet de développer un peu l'idéal démocratique du moment, qui est quand même la démocratie participative, avec l'idée qu'il y a des citoyens super informés, qui ont accès à tout, qui peuvent vraiment améliorer les politiques publiques. Bon, derrière, s'ils n'ont pas accès aux mêmes données que l'administration, c'est quand même un petit peu compliqué, c'est un peu théorique tout ça.
Parce que, est-ce que le grand débat, est-ce qu'on peut considérer que c'est une avancée démocratique pour le pays ? C'est la première fois qu'on organisait quelque chose à cette échelle-là. Il y a eu beaucoup de débat sur qu'est-ce qui était valable, qu'est-ce qui l'était pas, les différentes alternatives qui avaient été mises en place par l'administration, par les gilets jaunes. Quel regard est-ce que vous portez sur tout ça, vous qui...
C'est compliqué à dire parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un côté très descendant, c'est l'Élysée qui propose un grand débat au pays. Derrière, la manière dont c'est traité, dont c'est synthétisé, c'est vraiment la grande boîte noire. Et donc en fait, dans le grand débat, il y a eu un autre débat qui était à quel moment en fait on va ouvrir les données du grand débat. Il a fallu beaucoup de temps en fait avant que juste les données du grand débat soient en ligne en open data. Donc il y en a qui ont développé des petits robots pour les extraire parce qu'en fait si on n'ouvre pas les données, au lieu de passer par la porte, on va passer par la fenêtre, on va aller les chercher quand même. Par contre, je trouve un côté super intéressant dans le côté un peu des états généraux distribués sur tout le territoire, d'avoir la possibilité que des citoyens se rencontrent venus de plein d'horizons différents sur le territoire et puissent débattre, ça recrée du lien. Moi, je trouve qu'en général, on a tendance à être dans une société où c'est compliqué d'échanger avec des gens qu'on ne fréquenterait pas par ailleurs.
Qu'est-ce que l'Europe fait pour encourager cette ouverture des données et comment vous observez ce qui se passe à
Alors,
ce moment-là ?
L'Europe a été assez pionnière, pour le coup, dans ce domaine-là. La Commission européenne a regardé ce qui se faisait aux États-Unis, parce qu'en fait, dans les États-Unis, depuis les années 70, les données sont librement réutilisables par principe, et donc il y a eu plein d'initiatives d'ouverture de données. Nous, en France, on avait quand même développé pas mal d'initiatives, au contraire, de vente des données, c'est-à-dire qu'un point important avec les données en open data, c'est qu'elles sont gratuites. Et en France, on a beaucoup vendu de données, Souvenez-vous du Minitel. C'est pas impossible que vous ayez regardé vos résultats du bac sur Minitel, sur des services payants. Mais il y avait plein de services payants qui réutilisaient, notamment par exemple sur la météo, sur le Minitel. Et ça avait un peu développé une habitude de vendre des données en France parce que ça avait apporté une source de revenus. Avec Internet, ce modèle économique a été complètement remis en cause. Et l'Union européenne a beaucoup poussé à ce que la réutilisation gratuite des données publiques se développe dans l'Union, mais avec des règles encore assez faibles. Mais la question des données, plus largement quand même, je pense qu'il faut le rappeler, la protection des données en Europe, on a la chance, avec le règlement qui a été adopté en mai dernier, le RGPD, on a la chance d'avoir le cadre juridique de protection des données personnelles le plus avancé au monde. Et en fait, l'Europe montre la voie à la plupart des pays en matière de protection des données personnelles. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et j'aimerais que la prochaine mandature essaye que, au niveau européen, on ait à peu près le même niveau d'ambition sur l'ouverture des données publiques. En revanche, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on donne des moyens à l'administration d'ouvrir les données. C'est-à-dire qu'ouvrir des données, c'est pas juste claquer des doigts ou mettre en ligne un fichier. Ça demande derrière du travail pour aller savoir qui produit ces données, comment les extraire.
Je voulais juste citer Bastien François, qui est professeur en sciences politiques et qui disait dans une interview à Télérama qu'il réfléchissait pour la France à une 6e République. Il disait, en fait, en 1958, quand la constitution de la 5e République a été rédigée, elle était très moderne. Mais à l'époque, la France comptait 180 000 étudiants. Ils sont aujourd'hui 2,5 millions. Et ces étudiants ne sont plus béats et quoi devant le savoir, mais prompts à une remise en cause et une demande de dialogue. Tout a changé. Les rapports entre générations, entre hommes et femmes, l'acceptation de l'autorité, l'accès à l'information. Notre système ne peut pas s'adapter car il se caractérise par une concentration extrême du pouvoir. Et on va parler de ça et de ces nouvelles constitutions possibles avec Shane Vallée. Lui, il est économiste, il travaille beaucoup sur les questions européennes, mais il est arrivé à ces problématiques par des chemins assez inattendus.
Moi, j'ai été, à cause de mes origines, très intéressé par le commerce triangulaire.
La mère de Shane est moitié martiniquaise, son père, moitié malgache.
Moi, je me rappelle de la préface au discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, qui commence par « l'Europe est indéfendable ». Et il explique en quoi l'Europe est indéfendable pour le rôle qu'elle joue dans la colonisation. Et malgré tout, continue de penser aujourd'hui qu'elle est défendable et qu'elle doit être défendue.
On entend souvent dire que toute la politique européenne a été fixée dans des textes à valeur quasi constitutionnelle, que ce serait donc très difficile à faire bouger. Shane est proche de l'économiste Thomas Piketty, qui vient de publier avec plein de collègues un tout petit ouvrage qui dit que non, les traités européens ne sont pas une fatalité. Le livret s'intitule sobrement mais explicitement « Changer l'Europe, c'est possible ».
On a un peu tendance dans le débat national notamment à se dire au fond la consultation citoyenne est légitime que pour des enjeux de proximité, pour savoir si on construit un hôpital ou une route ici ou pas. Je pense qu'on peut étendre ça. Il y a des questions nationales sur lesquelles il serait utile d'avoir des référendums. La Suisse est un bon exemple de ça. Il y a des questions européennes aussi. Il y a quelques chemins qui permettent de faire ça dans les traités avec des pétitions. Ce qui est regrettable, et c'est l'expérience, donc ça c'est des nouvelles dispositions qui ont été introduites par le traité de Lisbonne, c'est qu'on n'en a pas fait très bon usage. Il y a eu par exemple quelques pétitions importantes qui n'ont pas été suivies des faits. Je pense notamment à une pétition très très largement soutenu contre le traité de libre-échange avec les États-Unis, que la Commission a cru bon d'enterrer. Je pense que ça, c'est une erreur. Et j'ai envie de dire, il y a un troisième échelon de la démocratie participative qu'on oublie souvent, qui est l'échelon de nature quasi constituant ou constitutionnel. Et là-dessus, je trouve qu'il y a un travail très intéressant qui a été fait en Islande. En gros, l'écriture d'une nouvelle constitution par une méthode citoyenne et participative. En gros, pour dire les choses très simplement, l'Islande, dans les années 2000, a connu une explosion de son système financier, qui était devenu un centre financier offshore assez important. En 2008-2009, donc à une crise bancaire profonde et une crise politique qui en suit, parce que tout le système bancaire était très lié de manière un peu incestueuse au système politique islandais. Et donc suite à ça, il y a une vraie remise en question du modèle. Et donc à ce moment-là, les gens se disent cette crise est aussi une crise de notre système politique, une crise de nos démocraties. Et donc la classe politique un petit peu acculée accepte l'idée d'un processus constituant largement menée par les citoyens. Le travail des citoyens était encadré par des intellectuels et des experts, des comités consultatifs qui permettaient d'apporter le meilleur savoir international sur les constitutions.
Un nouveau projet de constitution a vu le jour en mars 2011, mais les partis qui s'y opposent ont fait blocage et le texte n'a pas été soumis au Parlement. Et puis en 2013, les élections législatives ont été remportées par le Parti de l'Indépendance qui a suspendu toute tentative de révision de la Constitution.
Je pense que ça doit nous faire réfléchir en Europe à la manière dont on envisage un processus constituant. Je pense qu'on est rentré dans ce que Habermas appelle la fin du consensus permissif, c'est-à-dire la fin du monde dans lequel l'Europe pouvait avancer parce que, dans l'ensemble, les populations acceptaient que l'Europe était gérée par les élites et qu'elle ne le faisait pas trop mal. Je pense qu'on avait déjà atteint les limites de ça en 2005 avec le projet de traité constitutionnel. Je pense qu'en 2008-2009, avec la crise économique et financière, on a définitivement mis fin à ce consensus permissif. Et donc je pense qu'aujourd'hui, quand on pense aux avancées démocratiques dont l'Union européenne doit accoucher, je pense qu'on ne peut vraiment pas réfléchir à ça sans réfléchir de manière plus poussée à la manière dont on crée par voie consultative, par les chemins de la démocratie participative, un consensus plus large et les moyens d'un changement. Et là, je pense qu'on a une vraie interrogation parce qu'en réalité, à part le petit exemple islandais que je viens de donner, on ne sait pas faire. Mais en même temps, le fait que la conférence intergouvernementale traditionnelle pour changer le traité est reconnue, à mon avis, par tous aujourd'hui comme étant une impasse, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui sont prêts à réfléchir à des solutions plus innovantes.
On a commencé cet épisode avec un clip inspirant dans lequel on entendait beaucoup de piano. Je vous propose de le conclure avec un autre clip, toujours avec pas mal de piano et qui parle également de démocratie, mais sur un autre continent, aux États-Unis. Est-ce que vous avez vu le documentaire Netflix Knock Down the House, sur notamment la jeune députée Alexandria Ocasio-Cortez? Bon, si vous avez des copains qui ont Netflix, demandez-leur leur code. Et sinon, il y a des dizaines de vidéos d'elle sur la toile qui sont assez fascinantes, notamment l'une où elle questionne le système de financement des partis ou ses propositions de Green New Deal ou de gratuité des frais d'inscription à la fac. C'est assez vivifiant. Alexandra Ocasio-Cortez a été élue à 29 ans. Les Américains savent se trouver des héros et les faire parler sur des fonds de piano. Nous, on est un peu trop proche des élections, le CSA surveille, on n'a plus le droit de parler des partis dans la course, mais je me dis qu'il doit y en avoir aussi, des candidats passionnés et convaincants pour secouer le Parlement. En tout cas, si comme beaucoup, vous n'avez rien compris au système électoral du Parlement européen, on vous invite avec Maxime Caligaro à venir boire des verres. Il a promis d'y répondre à toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser. Ce sera le 22 mai, à 20h, au Liberté Living Lab, rue Alexandrie, à Paris. Ne venez pas en voiture, il n'y aura pas de parking. Par contre, amenez vos animaux domestiques. Et si vous ne pouvez pas être là, vous pouvez quand même nous envoyer vos messages, vos plaintes, vos stratégies de vote par téléphone au 00 33 1 56 40 53 78. Et on parlera de tout ça dans la prochaine mensuelle, c'est la semaine prochaine. Merci à Benjamin Riquet à la réalisation, à Martine Messonnier et à Victoire Faure au montage. Merci à Constance Cabouret pour son aide à déchiffrer le système de votation suisse et à Claire Brault pour ses dessins. Full Continental est sur Facebook, Twitter, Instagram. Et comme tous les lundis jusqu'aux élections du 26 mai, on est aussi dans Libération. Ce lundi, la double page du quotidien traitera du retour du féminisme dans l'Espagne contemporaine où le parti Vox grimpe. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.